Vous écoutez France Culture.
Ce que je critique, moi, c'est de faire un PPP pour la totalité d'un hôpital. Je considère qu'il n'est pas normal que les directions hospitalières soient totalement dessaisies de cette affaire.
À l'époque, on nous disait que ça serait plus fonctionnel, que ça serait moins cher, que ça serait plus rapide dans la construction. Or, ici, il s'est avéré que sur ces trois points, ça a été le contraire.
Si des gens, des sociétés arrivent à se présenter sur ce terrain-là, ils vont organiser les choses dans un but qui n'est pas celui de l'État. C'est un intérêt privé qui va venir sur le terrain collectif. Et là, c'est le mélange des genres par essence.
PPP comme partenariat public-privé. Il s'agit d'un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour construire par exemple un stade, une école ou encore une prison. Pour les uns, c'est la solution miracle pour construire alors que les caisses publiques sont vides. Pour les autres, c'est une véritable bombe à retardement pour les finances publiques. Partenariat public-privé, le prix de la dépendance. C'est une enquête signée Emmanuel Leclerc réalisée par Annie Brault. Avec nous en studio, Claude Annick Tissot. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'UMP, vous avez été notamment vice-présidente RPR du Conseil régional d'Île-de-France, c'était dans les années 90. Vous avez dénoncé les malversations financières de l'affaire des marchés publics d'Île-de-France et vous êtes donc actuellement juriste. Et on vous retrouvera après ce reportage. Nous sommes également avec Emmanuel Leclerc. Vous avez mené cette enquête sur les partenariats publics-privés. C'est en fait une ordonnance de 2004 qui a instauré ce type de partenariat.
Oui, on savait à partir de juin 2004 que cette dépendance à des entreprises du BTP qui empruntent à la place de l'État et de ses collectivités pour obtenir la propriété d'un palais de justice, d'un stade, d'un philharmonique au bout de 20 à 30 ans, eh bien qu'elle permettait de ne pas déclarer le coût global et les remboursements annuels dans la colonne des dettes publiques. Un miracle comptable qui a permis de construire des dizaines d'édifices à crédit. Alors, un certain nombre d'élus se sont sentis logiquement des âmes de bâtisseurs, occasion trop belle de marquer son temps, de faire travailler de grands architectes et de créer de l'emploi en France. Mais ce que l'on n'a pas su tout de suite, c'était à quel prix ? En réalité, derrière les artifices comptables, le secret des affaires, des marges et des bénéfices et des cahiers des charges étrangement mal ficelés parfois. Les spécificités des PPP, les partenariats publics-privés, c'est donc cette dépendance à des multinationales, les seules à pouvoir proposer un service complet de conception financière et industrielle, construction et gestion de la maintenance. Une concurrence finalement plutôt réduite avec des prix globaux assez proches en général. Au départ, c'est un peu comme une voiture en leasing, ça coûte forcément plus cher, mais jusqu'à quel point, à l'échelle d'un siège du ministère de la Défense, d'un hôpital ou d'un palais de justice. Ce sont des risques démultipliés et puis des imprévus, des aménagements qui s'imposent au fil des années. Les risques de conflits d'intérêts sont-ils réduits pour autant ? L'influence des cabinets d'études, celle des avocats spécialistes du contentieux, des enjeux multiformes qui ont débouché sur des catastrophes, mais aussi des réussites assez exceptionnelles. Depuis 4 ans, les PPP sont un peu mieux encadrés, les dettes inscrites dans les bilans comptables en partie, mais une loi votée au début du mois, sans aucune publicité, a élargi le cadre des partenariats au travers de futures sociétés d'économie mixte très particulières, les CEMOP. Pour débuter, je vous emmène tout d'abord sur le site, le chantier du futur palais de justice de Paris, attribué à Bouygues. Il avait été interrompu durant 9 mois après un recours en annulation intenté par une association de juristes.
Merci Emmanuel Leclerc, on écoute votre reportage.
Cyril Bourraine, il y a quelques mois, nous étions vus pour évoquer ce dossier du PPP, du partenariat public-privé du palais et du futur palais de justice de Paris. À l'époque, le chantier était arrêté, ici même, au bord du périphérique parisien. Ce qui était une première, un chantier interrompu. Les banques qui avaient prêté la somme au départ avaient stoppé leur financement. Et vous étiez encore, à l'époque, optimiste. Depuis, la cour administrative d'appel vous a donné en partie raison, mais vous a désavoué sur le fond, ne remettant pas en cause ce chantier gigantesque. Aujourd'hui, vous avez décidé quoi ?
Alors aujourd'hui, nous avons pris une décision importante puisque la procédure va se poursuivre et que nous allons saisir le Conseil d'État. C'est un investissement majeur, 3 milliards d'euros ou une somme proche de 3 milliards. Donc je pense que ça vaut la peine, compte tenu des enjeux pour la justice de demain, eh bien, de demander au Conseil d'État ce qu'il pense de ce partenariat public-privé. Lorsque l'État s'est engagé, il pensait en avoir pour 1,6 milliard. Finalement, il se retrouve avec une ardoise de 2,7 milliards. Et je vous dis qu'on arrivera vraisemblablement à des montants encore supérieurs si on prend en considération tous les à côté. Compte tenu de la durée de ce partenariat public-privé, il est bien évident qu'il risque d'y avoir des dérapages. Donc aujourd'hui, on sait que, a priori, le montant du loyer annuel sera d'environ 90 millions.
Depuis le début de votre combat dans le cadre de cette association, est-ce que vous avez pu avoir accès justement aux conditions dans lesquelles ce partenariat avait été signé, notamment la maintenance, les coûts financiers?
Écoutez, on a eu accès à un certain nombre de documents. Tous les aspects financiers de ces documents étaient soigneusement biffés, donc on n'a pas pu avoir toute l'information financière, notamment sur le montant des indemnités qui seraient versées par l'État pour le cas où le contrat serait annulé. Donc là, il y a vraiment une chape de plomb et une absence totale d'informations crédibles. Tout ce qu'on sait, c'est que ça coûterait très cher et que ça coûtait trop cher pour permettre à l'État de se débarrasser de ce contrat de partenariat.
Ensuite, le reste, la maintenance, les coûts horaires, combien coûterait le moindre aménagement.
On a des informations assez parcellaires et qui changent quasiment d'un mois sur l'autre, puisqu'on a oublié des éléments sur la sécurité, sur la sûreté. Finalement, on se rend compte qu'il y a vraisemblablement des coûts qui ont été largement sous-estimés.
Qu'est-ce que cela vous provoque comme sentiment quand vous vous dites « je n'ai eu accès à rien finalement, je suis président de cette association ». Je suis avocat et de voir que pour un contrat quelque part public, vous n'avez eu accès quasiment strictement à rien et de savoir ce que l'État a mis en place comme cahier des charges.
Très clairement, ce défaut d'information sur les aspects financiers pose la question du bon fonctionnement de la démocratie. Ça, il faut le dire sans...
Oui, mais c'est gardé secret en Allemagne, c'est gardé secret en Grande-Bretagne, c'est gardé secret en France.
C'est de l'argent public. S'agissant d'argent public, le citoyen a le droit de savoir comment sont utilisés ses fonds et dans quelle mesure il peut remettre en cause certaines opérations dès lors qu'elles ne remplissent plus les critères légaux. Il y a un travers, il y a une dérive que nous dénonçons.
Le groupe Bouygues n'a pas souhaité commenter les propos du président de l'association La Justice dans la Cité. Selon nos informations, le consortium bancaire international qui finance le projet a décidé de poursuivre son engagement après une renégociation à la baisse des taux bancaires. 300 millions d'euros de gagnés pour l'État sur 30 ans. Le patron de l'établissement public qui a négocié le contrat initial est fortement contesté par la ministre de la Justice, Christiane Taubira, n'a pas non plus souhaité s'exprimer au micro. Il nous a simplement affirmé que l'inspection générale des finances n'aurait rien trouvé de suspect dans le contrat, bien au contraire, que pour la première fois en France, des clauses prévoient des pénalités en cas de non-respect des délais d'intervention pour la maintenance, et puis une possibilité de mise en concurrence avec des devis pour le moindre aménagement non prévu initialement.
À l'accueil au Pôle C, il y a une personne qui se sent très mal.
Elle respire pas bien.
Qui respire pas bien du tout.
Radio, mais... Elle est pas bien.
L'hôpital le plus moderne de France, construit par le groupe Eiffage, le premier partenariat public-privé hospitalier signé en 2005, un contrat sur 30 ans qui vient d'être rompu avec beaucoup de pertes et beaucoup de fracas.
À l'époque, on nous disait que ça serait plus fonctionnel, que ça serait moins cher, que ça serait plus rapide dans la construction. Or, il s'est avéré que sur ces trois points, ça a été le contraire. C'était pas fonctionnel du tout.
Même sur la construction, parce que justement...
Même sur la construction, puisqu'on a eu 12 mois de retard. Pas fonctionnel, parce qu'il y a eu 8000 malfaçons et qu'on en découvre tous les jours, et on va en découvrir d'autres, d'autant plus que nous allons reprendre tout le bâtiment. Pour les personnels des urgences, des infirmières, quand elles étaient sur tel module, elles ne pouvaient pas voir leurs patients et donc les surveiller. Donc là, il fallait détruire telle cloison. Et ça, je peux vous décliner ça sur tous les services de l'hôpital.
Catherine Fayet est infirmière, déléguée du syndicat Solidarité de l'hôpital d'Evry et Corbeil-Essonne. Dans cette affaire, les deux partenaires en étaient arrivés à plus de 45 procédures de contentieux engagées devant le tribunal administratif de Versailles, selon nos informations. La société Éveil, filiale d'Eiffage, reprochait une gestion calamiteuse en amont du projet. Des aménagements exigés en cours de construction. L'hôpital, lui, dénonçait par exemple le choix de certains matériaux fragiles ou mal adaptés et surtout des surfacturations flagrantes pour la moindre intervention non prévue dans le contrat. Selon nos sources, le tribunal administratif de Versailles aurait condamné les deux parties en conflit s'il n'y avait eu récemment un accord, un divorce à l'amiable. Il prévoit plusieurs dizaines de millions d'euros d'indemnités pour Eiffage en échange de lourds travaux de réparation.
Le groupe FH que nous avons contacté n'a pas souhaité s'exprimer. Le nouveau directeur de l'hôpital sud-francilien, Jean-Michel Toulouse, a lui accepté de témoigner. Proche de la retraite, c'est une dernière mission pour tenter de solder les erreurs du passé.
Les torts n'étaient pas que du côté des FH, il faut bien le dire. Le loyer d'aujourd'hui, si vous voulez, s'élève à 24 millions d'euros. Et tous les ans, il aurait augmenté pendant les 30 ans de la durée du bail. Vous imaginez qu'on a beaucoup travaillé pour déterminer notre propre coût de maintenance. Donc nous avons travaillé au sein d'un comité technique qui regroupait des ingénieurs et des directeurs des services techniques de 3 CHU, ceux de Lyon, ceux de Lille et de Rouen, avec nos propres ingénieurs à nous, bien entendu, et les ingénieurs, si vous voulez, de nos consultants que nous avions naturellement recrutés pour nous aider à travailler sur ce sujet-là. Ils ont calculé, si vous voulez, qu'au bout de certaines années, notre loyer devrait se stabiliser autour de 14 à 15 millions d'euros. Parce que tous les ans, ou tous les deux ans, ou tous les trois ans, nous renégocions avec nos fournisseurs tous ces contrats. Et si vous faites vos calculs entre ce que nous aurait coûté ce PPP jusqu'en 2041, simplement au niveau de l'exploitation-maintenance, et ce qu'il va nous coûter si nous prenons ça à notre compte dès la fin de l'année prochaine, puisque la période transitoire s'arrêtera en septembre 2015, eh bien vous arrivez entre 6 et 700 millions d'euros. On me dit souvent, vous allez faire jurisprudence. Pourquoi ? Ce que je critique, moi, c'est de faire un PPP pour la totalité d'un hôpital. Surtout comme celui-ci, 1000 lits, un plateau technique magnifique, bon, très équipé, à mon avis, ce n'est pas approprié. Au niveau de la phase de conception en réalisation des travaux, je considère qu'il n'est pas normal que les directions hospitalières soient totalement dessaisies de cette affaire. Alors que, avec l'ancienne loi MOP, maîtrise d'ouvrage public, qui date de 73, certes, mais qui n'est pas du tout obsolète, qui mériterait peut-être qu'on la réforme. Hein. C'est quoi la loi MOP ? La loi MOP, ça veut dire que pour un hôpital, le maître d'ouvrage, c'est l'hôpital. C'est la direction de l'hôpital. Voilà. Et c'est le maître d'ouvrage qui fait son programme, qui choisit ses architectes et ses bureaux d'études, qui, en collaboration avec eux, fait l'appel d'offres pour sélectionner les entreprises. Donc c'est lui qui est maître de A jusqu'à Z. Il est dans les réunions de chantier. Il contrôle toute la phase d'exécution des travaux. Il reçoit les travaux avec sa propre équipe d'architectes et de bureaux d'études. Et donc, les choses, si vous voulez, sont complètement différentes. Alors qu'ici, la réception des travaux s'est faite sans nous. Il ne faut pas s'étonner qu'après, si vous voulez, les opérationnels, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les locaux, aient des choses à dire. Et donc, moi, je conteste, si vous voulez, cette affaire de PPP pour ça. Voilà, je pense qu'il y avait ce préjugé idéologique sur l'incapacité congénitale d'un hôpital ou d'une entreprise publique, quelle qu'elle soit, à gérer convenablement. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je considère qu'une entreprise publique, quelle qu'elle soit, le mot entreprise ne me fait pas peur. À partir du moment où vous mettez public derrière, avec des missions de service public, l'hôpital, c'est une entreprise publique avec des missions de service public. Et pourquoi serions-nous frappés d'incapacité de gestion ? C'est notre métier. Donc je récuse totalement cet a priori, qui est en effet un a priori idéologique. Et je suis bien content de m'être débarrassé de cet a priori idéologique ici.
Et d'en faire la preuve dans les trois.
Alors, ça ne sera pas simple. C'est ce que j'ai dit à nos organisations syndicales, aux médecins, au personnel. Ça ne sera pas simple, parce que désormais, c'est nous qui sommes responsables. On ne pourra pas dire, c'est la faute des FH, c'est la faute des veilles. Quand il y aura un truc à faire dans un service, et il ne faudra pas mettre 6 mois pour le faire. Parce que là... les médecins, les cadres, le personnel vont dire « Mais alors, monsieur le directeur, à quoi ça a servi hein, de reprendre le BEH si vous n'êtes pas fichu de faire les travaux mieux qu'eux et plus vite ?» Donc, voyez, c'est des obligations et des responsabilités que nous acceptons de prendre, mais c'est notre job. Voilà. Nous redevenons un hôpital normal.
À la même époque, en 2005, un autre hôpital signait également un PPP, un partenariat public-privé, mais uniquement pour une aile d'un hôpital, celui des 15-20 à Paris, un laboratoire de recherche sur la rétine.
Ces deux bâtiments-là, c'est le PPP. Ça et ça. Ça, c'est la résidence Saint-Louis pour accueillir les aveugles, les familles d'aveugles. C'est tout le site, ça appartient à l'hôpital des 15-20. Ouais.
Pierre Bordry est aujourd'hui à la retraite, ancien patron de l'Agence française de lutte contre le dopage. Ce conseiller d'État dirigeait au début des années 2000 le conseil d'administration de l'hôpital des 15-20. Avec le cabinet d'avocats choisi pour préparer le cahier des charges, il avait calculé y compris le rendement des opérateurs candidats pour financer, construire et entretenir le laboratoire.
Mon souvenir à l'époque, c'est qu'on était autour de 7% de rendement pour celui qui a eu le marché.
Pierre Bordry avait associé en amont tout le personnel concerné, instauré des clauses, des pénalités qui aujourd'hui sont devenues la règle en matière de PPP.
Je crois surtout, contrairement à ce qu'on a pu dire à une époque, que faire un centre de recherche dans un hôpital à Paris, c'est possible, que ça peut marcher, que ça marche pour celui-ci même très bien, parce qu'on bénéficie de tout cet apport public de la médecine publique française qui est prête à travailler ensemble, par exemple dans la zone de l'Est de Paris, les professeurs de médecine ou les médecins qui opèrent la rétine tous les jours peuvent être associés à la recherche clinique, à la recherche avec des ingénieurs, ce qui fait qu'il n'est pas exclu qu'on arrive à redonner la vue à des aveugles, ce qui est quand même extraordinaire. Le bâtiment est géré par l'entreprise privée, mais les occupants sont publics, les laboratoires sont publics, et ils sont maintenant d'une réputation mondiale tout à fait importante.
Et pour le conseil d'administration, il n'y a pas eu et il n'y a toujours pas de mise sous dépendance à l'égard d'un diktat éventuel sur les prix celui qui assure la maintenance.
Non, il y a un contrat qui est bien tenu par toutes les parties, qui est très important. Nous, on n'a pas eu de contentieux au tribunal administratif.
En fait, pas un seul avec votre opérateur.
Non, il n'y a pas eu de contentieux. Je crois que ce qui est très important, c'est quand on met au point le contrat, il faut avoir une stratégie précise, notamment sur les coûts, et qu'il faut essayer de bloquer tout ça dès le départ dans le cadre d'une convention qui fonctionne. Nous, dès le départ, on est parti sur cette base de rentabilité parce que nous étions préoccupés que ça ne coûte pas d'argent à l'hôpital et qu'il fallait que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc la première réflexion, en dehors de la réflexion juridique normale de l'établissement d'un contrat, ça a été une étude financière innovante et précise pour ne pas être débordé par des loyers, comme ça arrive trop souvent, qui dépassent ce qui était prévisible au départ. Donc ici, la démarche financière a été extrêmement importante. Et la Cour des comptes, à l'époque, aurait dû le reconnaître, ça aurait été beaucoup mieux. Elle le reconnaît, semble-t-il, mieux aujourd'hui. Il ne faut pas que le partenariat public-privé coûte. Et ça, s'il coûte, alors pourquoi le public ne le ferait pas lui-même? Ça serait peut-être moins cher.
Est-ce que vous seriez pour que les cahiers des charges soit rendu à un moment donné public?
Moi, je n'y suis pas hostile du tout parce qu'il y a d'abord les droits de la concurrence qui s'imposent. Donc il faut de la publicité sur les différents dossiers. Et je pense même que la publicité est nécessaire sur la réalisation des choses.
Ce qui permettrait de voir comment le contrat a été borduré par la collectivité publique.
Par exemple, comme il y a plusieurs entreprises en cause, donc on en choisit finalement une parce qu'elle est meilleure que les autres, il faut pouvoir aussi le démontrer aux yeux du public. Quand on fait un choix d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, on laisse tomber les autres. Et le droit à la concurrence, y compris au niveau européen, puisqu'on doit faire des appels d'offres européens, doit nécessiter une certaine transparence, et même une transparence totale.
Mais pour un exemple de bonne pratique, combien de PPP mal ficelés, des bombes financières à retardement, elles seraient des dizaines actuellement, à plomber les finances de l'État, communes, communautés d'agglomération, conseils généraux et régionaux. L'ONG ATTAC, avec ses comités locaux, a été l'une des seules ces dernières années à dénoncer ces nouvelles formes de délégation de services publics, à faire pression, mais un peu dans le vide, sur les parlementaires et les élus. À l'image de Rosane Perrault, agrégée de droit des affaires, chargée de cours à l'Université de Rennes.
Les contrats qui se révèlent être scandaleux aujourd'hui ont été signés avant 2010, c'est-à-dire à une période qui était un petit peu bénie pour les décideurs, puisque tous les loyers qui allaient être versés à l'entreprise étaient considérés comme des dépenses de fonctionnement et n'avaient pas figuré au bilan de la collectivité territoriale. C'était du hors-bilan. Donc on planquait la dette. Or, ce sont des engagements à payer, ces loyers-là. Alors, il y a eu un rapport de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, etc. Il y a une réforme qui impose maintenant aux collectivités territoriales de comptabiliser tous ces engagements à payer dans leur bilan, comme dette. Mais ce qui fait scandale aujourd'hui, c'est tous les contrats qui ont été signés avant, à une période où on pouvait planquer tout ça. Donc on allait construire un palais, je ne sais quoi, surdimensionné à Châlons-en-Champagne. On s'en fichait de ne pas le rentabiliser, puisque tout ça s'était planqué quelque part, et que finalement, Bouygues apportait le financement. Donc on pouvait se faire plaisir en allant inaugurer quelque chose. Donc, si vous voulez, les critères de choix, ça n'était pas le coût. Et puis, il faut bien voir aussi que les collectivités territoriales aujourd'hui, elles sont dans une logique de compétition. On est dans une logique d'attractivité du territoire. Donc, il faut construire des équipements qu'on appelle pratiquement aujourd'hui facteurs d'attractivité pour faire venir les beautiful people, enfin, bon, des winners. La France est le premier pays en Europe pour ce type de contrat à utiliser. Ouais, c'est 7% de la commande publique. C'est une énorme mise sous dépendance. Enfin, ce qui est le plus étonnant, enfin, ce qui est le plus inquiétant là-dedans, c'est effectivement de voir ces très, très grosses entreprises et les moyens que mettent ces énormes entreprises pour accaparer cet argent-là. Enfin, d'autre part, il faut que la société qui apporte le financement emprunte. Or, elle emprunte à des taux évidemment plus élevés que ne le ferait le public. J'ai par exemple des chiffres extrêmement précis pour le stade d'athlétisme d'Angoulême. Si on avait construit le projet en maîtrise d'ouvrage public, la collectivité empruntait sur 20 ans à 4,9% et aurait remboursé son prêt. Ça lui aurait coûté 250 000 euros par an. Ce qui a été choisi, c'est un contrat de partenariat. Et on se retrouve avec un loyer d'investissement de 329 000 euros par an. Donc un surcoût de 31%. Ça, c'est simplement l'investissement, si vous voulez. Ensuite, il y a les surcoûts liés au coût de maintenance.
Quimper, en novembre dernier, la révolte des bonnets rouges déplace la dénonciation des PPP sur un tout autre terrain que celui d'attaque, par exemple, en refusant le principe même d'une taxe votée par le Parlement à une très large majorité. L'écotaxe est pourtant le résultat, elle aussi, d'un partenariat public-privé. La société Ecomove a obtenu un marché qui a fait l'objet d'une commission d'enquête du Sénat. Ses conclusions ont été rendues avant-hier.
Pour la conférence de presse de la sénatrice des Égouts.
Carte de presse.
Lors d'une conférence de presse, plusieurs sénateurs de droite ont défendu le principe de cette nouvelle taxe sur les poids lourds, instauré sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Merci Francis. François Grosdidier.
Oui, merci. Alors d'abord, on avait lancé la suspicion sur le partenaire italien et l'origine des fonds, parce qu'on sait tous que tout ce qui est italien relève de la mafia. Donc on a beau chercher, je veux dire, on trouve rien. Ça a été une commission d'enquête très dure, inquisitoriale. C'est clair, c'est qu'il n'y a pas de loup. Il n'y a aucune irrégularité.
Merci François. Avez-vous des questions ? Allez.
Une question par exemple à Marie-Hélène Deségaux, la présidente UMP de cette commission d'enquête parlementaire, et François Grosdidier, sénateur UMP également de la Moselle, qui y a participé, sur l'origine de la décision de signer un partenariat public-privé pour prélever une taxe douanière, une mission régalienne de l'État. Marie-Hélène Deségaux.
On a fait souvent le reproche en disant qu'on avait privatisé une taxe. Non, là on répond aussi très clairement là-dessus, parce que le recouvrement forcé, l'État se l'est gardé par l'intermédiaire des douanes. Donc on n'est pas plus un collecteur de taxes que ce que l'on fait avec, par exemple, le péage sur les autoroutes. Voilà, pas plus sur le péage ou sur les amendes de police. Quand même, globalement, franchement, le prix, il n'est pas trop élevé. Parce qu'il faut ramener ça au kilomètre et à la voiture et au véhicule. Et quand on ramène ça, on arrive à 2,3 centimes. Et c'est vraiment dans la fourchette européenne qui est entre 2 centimes et 3 centimes.
Avec une commission d'enquête sénatoriale, vous avez eu accès aux documents financiers. Quelle est la marge bénéficiaire? Parce qu'on a parlé des coûts de fonctionnement, 25%.
Oui.
La marge bénéficiaire d'une entreprise comme Ecomove.
Je ne sais pas vous dire à ça, parce que ça, c'est couvert par le secret commercial, donc je ne peux pas vous le dire.
Le PPP était totalement justifié compte tenu de la technicité du dossier, et même ce qui paraissait à tous important, les 25% de la rémunération, se justifie complètement en comparaison à l'Allemagne, où on surveille un kilométrage moindre et avec beaucoup plus de trafic, ou alors en comparaison simplement avec les amendes des radars fixes, dont le coût de détection et de recouvrement pour l'État est proportionnellement beaucoup plus élevé. effectivement, il peut être judicieux d'exonérer les moins de 12 tonnes, il peut être judicieux d'avoir une franchise sur les premiers kilomètres. Ça, effectivement, c'est pertinent. On aurait dû les écouter là-dessus, mais certainement pas sur l'abandon de l'écotaxe et l'encouragement, finalement, à ce transport qui ne paye pas ses coûts et qui favorise la délocalisation des activités. Il a été démontré au cours de nos travaux que l'État n'était pas en capacité, n'avait pas l'expertise pour mettre en place lui-même ce dispositif. Et que s'il l'avait fait, ça aurait en plus nécessairement coûté infiniment plus cher. En revanche, on a bien vu comment les douanes exerçaient un contrôle extrêmement strict. Ce n'est pas une délégation lâche. Ecobouf reste de bout en bout étroitement contrôlé par l'État et notamment par les services douaniers.
Les syndicats de douane disent qu'on aurait pu mettre un autre dispositif que des portiques, que des GPS.
Oui, vous pouviez mettre les portiques, mais il fallait plus que des centaines, des milliers d'agents humains. Donc je comprends que les syndicats douaniers demandent. Il aurait fallu recruter. En fait, ça aurait coûté infiniment plus cher. C'est-à-dire, pour faire le même travail que les portiques, il aurait fallu recruter ou mobiliser des milliers de fonctionnaires. Donc les syndicats peuvent le demander. Je ne suis pas du tout certain que les finances publiques était en mesure de le supporter.
L'argent qui est utilisé pour faire rentrer l'impôt est de entre 1%, des fois moins, à 8% de la taxe, salaire compris. Au niveau de l'écotaxe, on atteint 25%. Donc, c'est pas cher, c'est prohibitif.
Philippe Bock travaille à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Ce responsable du syndicat Sud réfute pourtant depuis des années l'argument sur l'embauche nécessaire de milliers de fonctionnaires supplémentaires.
On avait posé comme départ de dire il faut des équipements lourds, quelque part, pour presque une autocollecte de la taxe. C'est ce qui a débouché sur les portiques. Des moyens lourds que, soi-disant, l'État ne pouvait pas mettre lui-même en place. On a fait intervenir le prestataire privé, donc qui a payé les équipements, mais qui les a effectivement facturés et qui veut, en plus, obtenir une marge bénéficiaire. D'où les 25%. On est très, très loin de ce que peut faire l'État. Si on parle de collecte de l'impôt, l'État, quelque part, est imbattable et c'est logique et c'est structurel. Là, on a introduit un modèle qui est, on pourrait dire, nouveau, mais en fait qui n'est pas nouveau, référence à la ferme générale. Seulement, ça se paye très très cher. Ça allait très bien tant que personne ne s'y intéressait. Le jour où l'affaire est revenue sur la place publique, dans un contexte en plus de dette et de pression fiscale qui a augmenté, c'était totalement insupportable. Mais cette affaire-là était insupportable dès le début. Effectivement, le mouvement des bonnets rouges, c'est un mouvement sur lequel on pourrait en dire beaucoup. Le seul mérite, ça a été de mettre ça sur la place publique, mais par le mauvais côté de la lorgnette. C'est insupportable en termes de démocratie, en termes d'efficacité fiscale, mais en tout cas, ça a été posé comme un contrat. Quelque part, l'État s'est retrouvé pieds et poings liés, et quelque part, il était complice lui-même de cette espèce de vol dans l'impôt.
Carrément, vous utilisez ce terme, que c'est presque du vol.
On va dire que ce n'est pas le vol au sens pénal du terme, c'est au moins de la captation. Mais ça fait des années, oui, maintenant on peut dire quasiment des années, que cette chose-là avait été dénoncée et que personne n'entendait malheureusement ces quelques voix-là qui étaient intervenues à l'époque.
C'est-à-dire qu'à Bercy, il n'y a pas eu de voix, de démission, de clash ces dernières années là-dessus, et y compris depuis qu'on sait combien ça va coûter.
Non, il n'y a eu aucune sortie, je dirais, forte pour dire on condamne ce système et on ne veut pas prêter la main à sa mise en place. L'affaire a roulé, comme sans mauvais jeu de mots, à peu près comme si de rien n'était, comme si on mettait en place un nouveau dispositif administratif comme les autres, mais c'était quelque chose de fondamentalement nouveau, même si quand on parle de ferme générale, ce n'est pas nouveau tout à fait dans l'histoire. Le fait de répéter, de dire l'État est à bout de souffle, parce qu'au bout d'un moment, c'est ça qui est annoncé. C'est un peu toujours la même chose, en fait, derrière, c'est un recul de l'État qui se prépare. Si des gens arrivent, des sociétés arrivent à se présenter sur ce terrain-là, ils vont organiser les choses dans un but qui n'est pas celui de l'État. Ce n'est pas un but d'intérêt collectif, c'est un intérêt privé qui va venir sur le terrain collectif. Et là, c'est le mélange des genres par essence.
Bonjour, Catherine Jacot.
Bonjour, enchanté, Emmanuel Leclerc.
Très bien.
Structure. Voilà. Je découvre votre bureau avec cette vue magnifique,
voilà, alors
sur tout Paris.
Formidable.
Et vous aurez une belle vue sur le futur palais de justice de Paris, par exemple,
n'est-ce pas ?
On la verra bien. Au siège de l'Ordre des architectes, au 45e étage de la tour Montparnasse à Paris, l'anniversaire des 10 ans de l'ordonnance instaurant les partenariats publics-privés avait déjà du mal à passer. Mais depuis 10 jours, il y a officiellement en plus en France les CEMOP. Le Parlement a voté à une large majorité, mais sans débat ou presque, la création possible pour toutes les collectivités de sociétés d'économie mixte à opération unique pour lancer des projets de PPP, quel que soit le type d'ouvrage. Les élus présideront le conseil d'administration de ces CEMOP avec une minorité de blocage face à l'investisseur qui, lui, devient le principal actionnaire. Catherine Jacquot est la présidente de l'Ordre national des architectes.
C'est une procédure qui n'est pas du tout vertueuse et qui induit, à notre avis pour tout le monde, des conflits d'intérêts potentiels dans la mesure où le partenaire privé qui sera actionnaire de la SEM sera à la fois juge et partie puisqu'il réalise en même temps les travaux. Donc si jamais ça se passe mal, si jamais il y a contentieux, on ne voit pas très bien comment la collectivité locale pourra faire valoir l'intérêt général ou l'intérêt public alors qu'elle aura juste cette minorité de blocage à l'intérieur de la société et que son partenaire sera réalisateur des travaux. Donc ça nous paraît assez évident que là, conflit d'intérêts, il y aura. Ce sont des PPP, et je dirais que qui n'en portent pas le nom, mais ce sont des PPP. C'est même plus grave, puisque même les PPP avaient un certain encadrement, étaient encadrés. On pouvait faire un PPP que dans certaines conditions. Tandis que là, n'importe quelle ville, n'importe quelle collectivité territoriale peut créer une CEMOP. On a vraiment essayé de mobiliser. On s'est retrouvé assez seul, il faut bien le dire. Et là, on a eu très, très peu de retours. Et j'avoue que j'ai été un peu choquée parce que certains parlementaires nous ont dit « Mais le monopole des architectes n'est pas atteint, donc en gros, de quoi vous vous peignez ?» Mais nous, on ne défend pas le monopole des architectes, ce n'est pas le rôle de l'institution, nous ne sommes pas un syndicat. Là, on est en train de dire, voilà, le maître d'ouvrage et le réalisateur, c'est le même. Et au milieu, il y a les architectes, alors dont on ne touche pas soi-disant au monopole, mais qui n'a plus de sens. Puisque quand Bouygues est sélectionné avant l'architecte, en fait, ça veut dire que c'est Bouygues qui va choisir l'architecte. Il faut le savoir, ça. Peut-être qu'une vedette importante, elle, sur son projet, enfin, en tout cas, ils le pensent, eux, va réussir à tenir tête à l'entreprise qui est en face d'eux. Je pense que c'est une illusion, mais de toute façon, ce n'est absolument pas eux qui vont évidemment faire baisser les coûts et maintenir l'entreprise, enfin, agir sur les profits de l'entreprise. Mais ils vont avoir l'impression que pour leur œuvre architecturale, ils vont garder une certaine indépendance. Voilà. Maintenant, je suis d'accord qu'il n'y a pas forcément la prise en compte.
Œuvre architecturale, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est dénoncé et ce qui coûte cher, ce qui risque de coûter très cher à la collectivité.
Je suis d'accord. Voilà. Mais il faut aussi, il y a un principe de réalité. Nous, en tant qu'institution, c'est absolument notre devoir de dénoncer tout ce qui peut aller, évidemment, contre l'intérêt général. Maintenant, il y a un principe de réalité. C'est vrai que beaucoup d'architectes, les architectes ont besoin de travailler aussi. Donc, ils acceptent certains contrats qui, de notre point de vue, ne sont pas du tout vertueux. Oui, c'est vrai. Mais je dis Bouygues, je ne parle pas de Bouygues, Vinci, Eiffage, enfin tous les grands. On a une chance en France d'avoir des très grandes entreprises très performantes. C'est au pouvoir public de leur donner leur juste place. Néanmoins, elles ne doivent en aucun cas se substituer à la collectivité territoriale et prendre un poids qu'elles n'ont pas et devenir commanditaires de travaux qu'elles vont elles-mêmes réaliser. Ce retournement de situation est particulièrement pernicieux. Et j'avoue tomber un peu de la chaise, si je puis m'exprimer ainsi, en voyant cette loi CEMOP qui est un PPP aggravé, quoi.
Il y avait combien de parlementaires le soir où cette loi a été votée ?
Il n'y avait personne. Je ne vais pas m'avancer sur un nombre, mais c'était quasi vide. Voilà.
Comment ça se fait que les élus puissent ainsi se lier les mains ?
Rosane Perrault, de l'association ATTAC.
Comment ça se fait que des députés puissent ne pas comprendre que ces outils-là sont dangereux ?
Ça pourra marcher pour des élus honnêtes qui auront envie de mettre le nez là où il ne faut pas, et ça marchera beaucoup moins si l'élu soit n'y comprend rien, soit est moins honnête.
Oui. Bon, on peut quand même considérer qu'a priori, les élus... Enfin bon, s'il y a quand même pas mal de scandales qui montrent qu'il y a prise illégale d'intérêt, conflit d'intérêt, etc. Ça existe aussi. En tout cas, nous...
Et ça ces contrats-là, de toute façon, sont des portes ouvertes. C'est-à-dire que si vous voulez aller vers le conflit d'intérêt, c'est très facile, vers la prise illégale d'intérêt.
Oui, parce qu'il y a toujours l'opacité, il n'y a pas plus de transparence, il y a tout autant d'opacité. On a l'impression que c'est un système qui a été construit quand même pour puiser dans les caisses de l'argent public au maximum.
Partenariat public-privé, le prix de la dépendance, un reportage signé Emmanuel Leclerc. Je me tourne vers notre invité, Claude-Annick Tissot. Je rappelle que vous avez été vice-présidente du conseil régional RPR d'Île-de-France dans les années 90. Vous avez dénoncé les malversations financières de l'affaire des marchés publics d'Île-de-France. Une affaire en gros politico-financière portant sur la construction et l'entretien de lycées. Les entreprises se voyaient attribuer les marchés de construction des établissements de la région et reverser une partie de leur montant à des parties. Vous avez dénoncé ce système et vous l'avez payé assez cher. Hein.
Oui, peut-être. Bon, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que là, j'ai entendu un peu un discours à charge sur les PPP. On a l'impression que la procédure, elle est vérolée. Moi, je crois que ce n'est pas la procédure, comme pour les marchés publics de la région d'Île-de-France, qui est vérolée. C'est la gouvernance de la procédure.
C'est-à-dire
et
en
c'est bien
amont,
ce que dit,
les
et
décisions
c'est
prises
bien
en amont.
Ce que, oui, tout à fait. Et c'est bien ce que dit d'ailleurs la Cour des comptes, et on va y revenir sur l'analyse préalable, quand j'ai entendu d'ailleurs très bien le directeur de l'hôpital des 15-20 qui parle et qui dit qu'ils ont fait une étude très approfondie des coûts, des surcoûts, des risques, du coût des risques, etc. Donc, quelque part, et c'est ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'il faut revenir et mieux cadrer, effectivement, la procédure, et surtout en amont, au niveau de l'évaluation préalable. Moi, je voudrais quand même revenir sur un point, c'est en disant que, quelque part, j'ai entendu surcoût, surcoût, surcoût. Bon.
Rosane Perrault d'Attac disait même « planquer la dette ».
Bon, moi je vais prendre, elle est d'ailleurs sur Internet, la dernière étude de l'Agence nationale d'appui à la performance, qui a fait une étude comparative entre des dizaines de PPP et d'autres procédures comme par exemple la maîtrise d'ouvrage public, et qui dit non, c'est pas évident, il n'y a pas de surcoût. Par contre, la réalisation, les délais de réalisation avec les PPP sont beaucoup plus courts que dans le cas de d'autres procédures. Donc, quelque part, ce témoignage à charge sur les PPP, que d'ailleurs, on n'a pas vu mis en cause par les directives européennes, puisqu'il vient de sortir 3 directives européennes sur la commande publique. 2, les 3 ne parlent pas et ne remettent pas en cause le partenariat public-privé. Donc, quelque part...
Enfin, vous avez entendu l'exemple de l'hôpital sud-francilien. Quand
alors,
même,
on va y revenir. Cet hôpital...
C'est accablant.
Oui, mais il y a des ratages, et c'est le bon exemple du ratage. Et puis à côté, il y a des réussites de, il y a des réussites de PPP.
Ce que vous voulez dire, c'est que ça ne marche pas. Prenez... Pourquoi dans ce cas-là, ça ne marche pas?
Alors, dans le cas, en l'occurrence, puisque la Cour des comptes a justement fait une étude des PPP hospitaliers, du plan hôpital 2007, et donc à étudier et à regarder ce cas-là, puisque le cas de ce PPP, c'est qu'au bout d'un certain nombre de temps, la société a réclamé 175 millions d'erreurs d'euros de dépassement. Et c'est à ce moment-là que, du coup, le conseil de surveillance de l'hôpital a dit « on rompt le contrat ». On préfère verser une indemnisation à la société, qui est d'ailleurs une filiale d'Eiffage, plutôt que de continuer. Et on reprend la maîtrise, on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure, de l'opération du projet. Bon, quand on regarde le rapport de la Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes, il dit que les erreurs commises dans le choix et la mise en œuvre du PPP découlent essentiellement des problèmes de gouvernance et essentiellement dans ce cas-là d'un programme fonctionnel qui n'était pas clair, à l'évidence mis en place par l'institution hospitalière.
Et donc,
c'est-à-dire
pour
que
vous...
quelque part, les dérapages qui sont faits, ils étaient dus à une mauvaise, c'est ce que dit la Cour des comptes, à un mauvais contrat, c'est-à-dire à des clauses contractuelles qui ne prévoyaient pas ou prévoyaient mal divers conflits qui peuvent intervenir dans le contrat, pendant la durée du contrat, et qui surtout ne prévoient pas le partage des risques, et notamment des coûts associés aux risques. Voilà.
Claude-Annick Tissot, est-ce que vous avez l'impression que ces attributions de marché public via des PPP sont un peu plus transparents, sont plus sains qu'il y a 20 ans à votre époque, lorsque vous dirigiez la commission d'attribution des marchés publics et vous aviez été l'une des premières à même à faire des tirages au sort, ce qui vous a valu beaucoup, beaucoup de reproches?
Moi, je crois très sincèrement, bien sûr, qu'il doit y avoir des dérapages, peut-être, ou des j'appelais ça à l'époque de la salade ou des combines. Bon, on va reprendre le même terme. Mais ça n'est pas complètement tous les contrats de partenariat public-privé. Et quelque part, encore une fois, comme le dit la Cour des comptes, il faut mieux encadrer maintenant les analyses préalables, notamment avec. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que récemment, la mission d'appui au PPP venait de mettre en ligne un modèle financier pour les évaluations préalables qui permettent justement de mieux cadrer les charges, le coût des investissements, le coût de l'exploitation.
On a l'exemple de ces communes surendettées qui ont recours à un PPP pour construire par exemple un stade très onéreux. On pourrait comparer cela un ménage surendetté qui achèterait à crédit une Porsche. Parfois, il y a des exemples comme cela. Et il y en a beaucoup.
Oui, c'est pas ce que disent l'analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Agence nationale. Et puis, il y a d'autres exemples de réussite, puisque vous parlez de réussite, il y a des bons côtés. Il y a, par exemple, le zoo de Vincennes, qui aujourd'hui, sur 25 ans, a pu refaire toutes ses installations à un coût qui coûtait 13 millions d'euros, qui n'était pas possible. C'était pas un coût qui pouvait être dégagé par l'institution.
Il vient de rouvrir, donc on verra
Ce sont des paris politiques, si jamais il y a suffisamment de beaux animaux, ça marchera. C'est comme le musée du surf à Biarritz. Hein. Si jamais les touristes ne veulent pas aller dans le musée, ça sera un gouffre.
Vous citer un exemple que je trouve absolument génial. C'est le canal Paris-Seine, le canal Nord-Seine. Le canal Nord-Seine, c'est 4 milliards d'euros. Et ça va permettre, la création de 10 000 emplois, entre 10 000 et 13 000 emplois, ça va permettre surtout très vite de transporter 13 millions de tonnes de marchandises par an, alors que ces 13 millions de tonnes sont transportées aujourd'hui par 500 000 poids lourds sur l'A1. Enfin, je veux dire,
ça, c'est la solution aux caisses vides des autorités publiques, c'est la solution?
Eh bien, comme le dit, puisque vous avez parlé tout à l'heure du tribunal de grande instance de Paris, qu'est-ce que dit la cour d'appel administrative? La cour d'appel administrative, elle dit, elle n'a pas remis en cause le partenariat public-privé, on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs peut-être au regret de l'association qui l'avait attaqué devant le tribunal. Elle ne l'a pas remis en cause parce qu'elle a bien dit que ce contrat prenait en compte à la fois l'urgence des besoins du TGI, qui aujourd'hui est complètement réparti géographiquement dans différents secteurs, ce qui pose des problèmes de sécurité, et surtout permettait une cohésion sur un projet extrêmement complexe, puisque c'est une tour de 130 mètres, et avec sur notamment des espaces et des emprises ferroviaires non viabilisées.
Très rapidement, voilà. Emmanuel Leclerc.
Oui, très rapidement. Est-ce que vous avez l'impression, ça a été dénoncé dans avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer pendant ce reportage, est-ce que la puissance publique a les moyens de se payer des cabinets d'avocats? Vous faites partie d'un grand cabinet d'avocats d'affaires parisien aujourd'hui. Est-ce que la puissance publique a les moyens de faire face aux grands cabinets d'affaires que s'offrent les multinationales du BTP pour négocier ces contrats, justement, en deux mots?
Oui, en deux mots, ces entités publiques, elles font des appels d'offres, parce que ça se fait après appel d'offres, pour choisir effectivement une assistance juridique dans ce cas-là.
Elles ont les moyens face aux multinationales?
Elles ont les moyens.
Merci à vous, Claude-Annick Tissot, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction Partenariat public-privé, le prix de la dépendance. C'était un reportage d'Emmanuel Leclerc réalisé par Annie Brault. À la technique, Francis Pascal et Théo Gomard. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, la commenter sur notre site franceculture.fr, mise en ligne par Abdellah Kelidrissi.